Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique, dernier week-end à Pékin et dernières émotions avec notamment le ski halfpipe samedi. Kevin Roland a pris une belle 6e place en finale la nuit dernière, une belle manière de conclure sa carrière olympique. On en parlera avec notre consultante Clémence Grimal. Il sera temps ensuite de faire les premiers bilans, d'abord en biathlon avec 7 médailles dont 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Les biathlètes ont réussi leurs Jeux Olympiques. On débriefera cette quinzaine en compagnie de notre consultante Sandrine Bailly. Et puis, pour conclure cette émission, on se penchera sur une image que vous gardez de ces Jeux Olympiques. Une image chacun pour se souvenir des grands moments des JO d'hiver 2022. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous.
Salut. Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Être en finale représentait déjà une victoire en soi. Kevin Roland est même allé chercher une belle 6e place en finale du halfpipe avec 3 runs réussis. Il a en effet augmenté son score lors de chaque passage. Il pouvait avoir le sourire en bas du pipe. Pour en parler, on accueille notre consultante Clémence Grimal. Clémence, l'histoire est belle et se termine bien pour Kevin Roland, notre porte-drapeau.
Ouais, je pense que l'histoire se termine même très très bien. Je ne suis même pas sûre qu'elle pouvait mieux finir que ce qu'elle a fini hier. Peut-être avec un podium, mais même pas, j'en suis même pas sûre. Je pense que, comme tu l'as dit, la plus belle victoire était d'être dans ces finales hier, d'être aux Jeux Olympiques déjà, je trouve. Mais en tout cas, oui, ça se termine hyper bien. Il nous a prouvé qu'il était capable de beaucoup. Il fait des runs incroyables hier. Il ne tombe pas, il ne fait pas d'énormes chutes. Et je pense qu'on doit lui tirer notre chapeau pour ça réellement, parce que c'est une preuve de grand mental, de grande résilience et j'espère un modèle pour beaucoup.
Tu parles d'hier, évidemment, c'était cette nuit, mais avec le décalage,
ouais,
tu as passé ta nuit derrière, mais voilà, donc c'est aujourd'hui. La résilience, il a employé ce terme, hein, même lui, comme toi, à l'issue de son troisième run, effectivement, c'est le nom de son doc, parce qu'on se rappelle, on le rappelle assez souvent, il y a 3 ans, il a fait une énorme chute qui a été très, 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 très grave. Il aurait pu décéder carrément. Enfin, n'ayons pas peur des mots. Être là aujourd'hui, 6e, meilleur Français. Hein. C'est tout simplement ça que ça veut dire aussi. C'est que c'est le meilleur Français en halfpipe aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment une énorme victoire.
On en parlait tout à l'heure, mais je trouve que déjà de tomber dans un pipe, quand on fait une figure, de se relever, de remonter au départ pour la retenter, c'est déjà très compliqué. Il faut remonter tout de suite, il faut la réessayer tout de suite. Sinon, après, on a la peur qui se déclenche. Mais alors, quand il nous arrivait un accident pareil, comme lui est arrivé, remonter en haut d'un pipe et faire un run aux Jeux Olympiques en finale, mais je trouve ça, moi, vraiment astronomique et lunaire, réellement. Il faut un courage incroyable, il faut une passion, il faut un amour du sport qui est débordant pour en arriver là. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est vraiment impressionnant de sa part. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui, en tout cas.
Je crois que le public ne mesure pas bien ce que c'est justement de tomber, de faire ça, et le danger qu'il y a, la notion de danger derrière ça. Et on a vu quelques gadins qui étaient assez spectaculaires, et on se dit que voilà, après, il faut y retourner. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu as dit dans l'histoire de Kevin Roland, c'est que tout est beau de A à Z, et c'est une belle histoire olympique. Il est passé près de la mort il y a 3 ans. On lui a dit que tu ne remettras sûrement jamais les pieds sur les skis. Il l'a fait. Il s'est qualifié pour les JO. Il était porte-drapeau. Et il termine aujourd'hui avec cette phrase où il dit « J'ai suffisamment fait souffrir autour de moi. Je vais m'arrêter là, entre guillemets. » C'est-à-dire que je ne vais pas aller prendre des risques superflus. Et il sort avec le sourire. Donc, tout est beau de A à Z. Et c'est la preuve aussi qu'on n'est pas obligé de repartir avec une médaille pour être heureux, pour avoir réussi ces Jeux Olympiques. Et lui, il en est la preuve vivante. Et c'est super sympa d'avoir ça justement pour l'avant-dernier jour, terminé là-dessus pour la délégation française.
Ouais, oh. Non, complètement. Ouais. Bon, pardon, Laurent, vas-y.
Non, mais je me disais que je ne suis effectivement pas sûr qu'il avait besoin de rentrer en finale pour que l'histoire soit belle. Je pense que le simple fait d'être là à Pékin, c'était ça sa victoire. Alors effectivement, en plus, il est rentré en finale et en plus avec une sixième place à l'arrivée qui est peut-être même mieux que ce qu'il espérait sportivement, notamment après les qualifs. Donc moi, quand j'ai revu les images de sa fameuse chute, je ne sais même pas comment on peut remonter sur des skis et refaire du halfpipe derrière. Ça me sidère, ça me dépasse. C'est-à-dire que quand je dis ça me dépasse, j'ai déjà du mal à savoir comment on peut en faire, mais tellement ça me paraît compliqué. Moi, je suis beaucoup trop précautionneux pour prendre de tels risques. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ces sportifs-là. Mais en plus, quand on a connu ça, je pense que physiquement, mais peut-être encore plus mentalement, ça doit être demander un effort et une forme de courage qui, moi, m'échappe totalement. Donc, oui, je trouve que c'est peut-être une des plus belles histoires françaises de ces Jeux, Kevin Roland. Et en plus, il a été porte-drapeau. Donc, ouais, je pense qu'il a vécu des Jeux magnifiques. Et en plus, comme il avait déjà eu une médaille olympique à Sochi, je crois. Je crois que c'était à Sochi. Ouais. Bah, cet enjeu-là était finalement encore moins prégnant pour lui. Donc, c'était pas, il ne jouait pas sa carrière olympique sur cette quinzaine. Donc ouais, vraiment, moi, je suis admiratif et impressionné.
Ouais, et puis si je peux rajouter quelque chose, je pense vraiment que s'il en arrivait là aussi aujourd'hui, je pense que c'est pour l'amour de son sport et que sans ça, peut-être qu'il n'aurait pas pu refaire de sport plus tard. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé aussi à sortir un peu de cette rééducation, d'apprendre à remarcher. Et je pense qu'on ne mesure pas vraiment la force d'une passion pour un homme. Et chez lui, elle a été tellement grande que ça lui a appris en gros à remarcher, à sortir de sa rééducation et à se dire « j'ai envie de sortir plus fort de ça et ça sera grâce à cette chute ». Et plutôt qu'en faire un drame, il en a fait une force et je trouve ça beau vraiment.
Ça me revient en mémoire.
Ça me dépasse aussi.
Oui, mais bon. Ça me revient en mémoire l'interview qu'il nous avait donnée juste avant le début des Jeux, quand il venait d'apprendre qu'il était porte-drapeau. Et évidemment, il ne pouvait pas dire que c'était suffisant. Il avait besoin aussi de se projeter sur ses Jeux, etc. Mais on sentait quand même dans ses propos, derrière tout ça, que bah, finalement, la victoire, elle était là. Être porte-drapeau, représenter la France devant le monde entier, finalement, après ce qui lui était arrivé, bah, voilà, il avait réussi. Et on était heureux de souligner ça. On voulait en parler aujourd'hui parce que voilà, c'était la belle histoire de ces Jeux Olympiques. Merci Clémence d'avoir participé à l'Heure Olympique plusieurs avec reprises. Ça nous a fait plaisir de t'avoir.
Moi aussi. C'est très agréable.
Eh bien, écoute, tant mieux. On espère.
On se revoit dans 4 ans.
On se revoit dans 4 ans.
Ouais, exactement. En attendant, je vais dormir pendant 4 ans. Et
je... Super. On passe à notre partie bilan à présent. On va se pencher sur le biathlon qui a rapporté 7 médailles à Pékin. Pour en parler, on accueille les journalistes Laurent Vergne et Simon Farvac. 7 médailles au total, un record sur une même édition des Jeux. Les biathlètes français ont décroché la moitié des médailles de la délégation tricolore à Pékin. Quel bilan tirer de cette quinzaine olympique ? Pour en parler, on accueille notre consultante Sandrine Bailly. Sandrine, ce bilan, il est forcément très bon, voire même excellent.
Ouais, je crois qu'on peut utiliser le mot excellent. Ouais, c'est très très fort cette équipe parce que finalement, sur chaque Olympiade, on nous attend, les biathlètes. Et à chaque fois, ce ne sont pas toujours ceux qu'on attend qui font des médailles. Par exemple, si je me souviens de Vancouver, il y avait pas mal de jeunes qui avaient bouleversé un petit peu les hiérarchies et qui étaient allés chercher des médailles improbables. Et là, là on est encore sur des athlètes qui suivent la lignée de Martin Fourcade. Et à chaque fois, aussi, on peut saluer la préparation finalement de tout ce groupe parce que c'est pas simple de préparer une équipe pile poil au bon moment, d'être bon en fartage, bon en préparation physique, savoir aussi mentalement gérer cet événement. Et je crois que là, à chaque fois, on peut dire que le biathlon a réussi ça. Et c'est aussi parce qu'il y a des gens d'expérience autour qui gravitent depuis un petit moment.
Cette médaille, un choix assez fort, excuse-moi Adrien, par rapport aux nations scandinaves notamment, qui ont fait des impasses pour préparer ces Jeux, l'optique de la délégation française était différente et ouais. ça a payé. D'ailleurs, Quentin Fillon-Maillet disait que lui, c'était en courant beaucoup qu'il se sentait bien, et etc., qu'il entretenait sa forme. En tout cas, les choix qui ont été faits sur l'établissement des pics de forme sans pour autant zapper des étapes de Coupe du Monde ont, quand on regarde le bilan d'ensemble global, porté leurs fruits.
Si je dois reparler un peu de la préparation physique, le coach, c'est Vincent Vitos, donc c'est un ancien fondeur qui aime beaucoup en fait ce travail en altitude et qui a tout organisé l'entraînement des biathlètes en fonction de petites pointes comme ça, d'entraînement en altitude, parce que c'est ça aussi la différence, c'est que nous, les Français, on est habitués à courir en altitude malgré tout. En général, on se débrouille bien. Et là, la clé, elle a été dans le fait qu'ils ont pu vraiment faire une préparation optimale en amont en faisant de temps en temps des petits stages en altitude. Il y en a eu un à Font-Romeu, ensuite il y en a eu un à Bessan, en Haute-Maurienne. Donc quand je dis altitude, c'est au-delà de 1800 mètres parce que c'est là où en gros le corps il commence à galérer, à être en hypoxie et donc à réagir, à s'habituer aussi à ce mode altitude où on manque d'oxygène. Donc, ils ont pu faire ça en se disant, de toute façon, la dernière préparation, elle aura lieu sur Interselva, en altitude, pendant les compétitions. Et en fait, ils ont vraiment continué de A à Z sur cette lancée en se disant, j'adapterai le programme à chacun en fonction de... Voilà, par exemple, un Émilien n'a pas fait toutes les courses parce qu'il se sentait en travers. Donc voilà, après, il essaye aussi de faire adhérer l'athlète au projet et c'est comme ça que ça marche. C'est pas quand il y a quelqu'un qui impose les choses, c'est quand, en fait, on est tous convaincus qu'on a fait la meilleure préparation pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé.
Une préparation parfaite, donc. Encore faut-il derrière concrétiser. Ouais. Et là, je disais, cette médaille, 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Laurent, c'est le grand bonhomme de ces Jeux pour l'équipe de France qui ramène à lui seul presque un tiers des médailles.
Oui, alors celui de Quentin Fillon-Maillet, il est exceptionnel, mais pour le bilan global du biathlon français, je trouve que c'est presque mieux que vendredi, ce soit Justine Brezza qui était en or sur la Mastart, plutôt que Quentin Fillon-Maillet, parce que ça rééquilibre un petit peu, et c'est vrai qu'on avait dit que le bilan des filles était, malgré la médaille d'argent d'Anaïs Chevalier bouchée sur l'individuel, était un petit peu terne par rapport à leur saison, notamment en plus avec l'échec du relais féminin. Là, avec cette médaille d'or, c'est quand même. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y avait eu que Florence Babrel qui avait été championne olympique en individuel chez les filles. Donc, c'est quand même exceptionnel. Cette médaille, 3 titres, bah oui, c'est exactement dans le haut niveau. Ce n'est pas extravagant. C'est-à-dire que c'était tout à fait envisageable, mais c'est dans la fourchette de ce qu'on pouvait espérer. Je crois qu'on en avait parlé avec Loïs Haber au tout début des Jeux. Loïs avait dit entre 6 et 8 médailles, donc bon, on est en plein milieu. Ça aurait pu être encore plus. Pour ça, il a manqué peut-être deux choses. Le relais féminin, voilà, c'est le regret, et puis un Émilien Jacquelin pas au niveau de ce qu'il a pu connaître jusqu'au mois de décembre. Si on avait eu l'Émilien Jacquelin du début de saison, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de courses, enfin, pas mal de courses où Quentin et Émilien étaient ensemble sur le podium, et même chez les filles on a vu des doubles podiums, donc c'est peut-être ce qu'il a manqué pour qu'on atteigne par exemple les 10 médailles, qui n'étaient pas impossibles. C'était une ou deux courses individuelles, on faisait 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3. On l'a beaucoup vu en Coupe du Monde cette année, on ne l'a pas vu sur ces Jeux, mais ça reste voilà, faire la fine bouche sur le biathlon français, alors que sans le biathlon français, le bilan global de la délégation française à Pékin serait quand même pas folichon. Donc, il faut dire merci aux biathlètes, comme souvent, comme toujours, presque, j'ai envie de dire, depuis un bon quart de siècle maintenant.
Et pour remettre dans le contexte la relative contre-performance sur ces Jeux d'Émilien Jacquelin, on parlait de préparation. Pour lui, le défi était encore plus grand parce qu'il a eu sa grosse blessure au poignet durant l'été qui a tout changé dans la façon dont il comptait monter en puissance, qui a remis en question des choses sur sa capacité ou pas à jouer le classement général plus les Jeux. À mon avis, ça a été très compliqué pour lui d'arriver en forme au bon moment à cause de ça. Il s'est agréablement surpris en début de saison où c'était le meilleur fondeur avec Sébastien Samuelsson de tout le plateau. Voilà, peut-être que pour lui, le pic de forme physique n'a pas été idéalement instauré, mais il y avait une complexité initiale estivale qui, à mon avis, beaucoup joué là-dessus, quoi.
Moi, je mettrais un petit bémol avec ça. On voit des Alpins revenir de blessures beaucoup plus graves. Alors, je ne dis pas que c'est pareil. Émilien, il a su quand même travailler. Malgré sa blessure, il a pu tout faire sur les jambes.
Et finalement, ça s'est vu en début de saison. Et je pense qu'Emilien, le plus gros progrès qu'il puisse faire, ça va être de travailler dans sa tête parce qu'il a tendance parfois à lâcher. Et ça, ce n'est pas physiquement, c'est aussi au tir. Quand il voit que ça tourne mal, il y aura toujours une excuse. C'est quelqu'un qui aime la gagne, qui aime être sur le devant de la scène, qui aime briller. C'est très bien. C'est un showman, c'est une rockstar, comme dirait Gilles. Mais si on veut gagner le classement général de la Coupe du Monde, il va falloir s'habituer parfois peut-être à moins glisser, peut-être un jour à trembler un peu sur le pas de tir et à s'adapter. Ça fait partie du jeu, tous les athlètes connaissent ça. Donc je pense qu'Emilien, sa blessure, je ne suis pas sûre que ça soit ça réellement le problème sur ses jeux. Je pense plus que c'est dans sa façon en fait, de voir peut-être le haut niveau et de percevoir ses échecs.
Si on espérait effectivement peut-être avoir un Emilien Jacquelin un cran au-dessus, voire une équipe de France de manière globale, hormis Quentin Fillon-Maillet qui irait au son niveau, on est aussi tombé sur une très très grande équipe de Norvège qui a certainement enlevé des médailles aux Français, Laurent.
Ah, mais le bilan des Norvégiens, il est ahurissant. Et il faut se souvenir qu'il y a 4 ans à Pyeongchang, ils avaient pris une claque, les Norvégiens. Ils avaient fini avec 7 médailles. Et un seul titre. Alors, c'est un très bon bilan, mais pour les Norvégiens, ce n'était pas satisfaisant. Et là, ils ont fait 14 médailles en 11 épreuves et 6 titres olympiques, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un bilan qui est ahurissant. Et vraiment, cette année, la hiérarchie, elle a été limpide. C'est-à-dire la Norvège toute seule devant, l'équipe de France toute seule derrière, assez loin, mais loin devant les autres, avec 7 médailles en 3 titres. Donc, ça veut dire que France plus Norvège, c'est 21 médailles cette année. Il y a 4 ans à Pyeongchang, si on prenait les 4 premiers du tableau des médailles en biathlon, c'était 22 médailles. C'était l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège. Ces 4 nations, on avait cumulé 22. Et là, France-Norvège ont vraiment quasiment tout raflé et n'ont laissé presque que des miettes à la concurrence. Donc, c'est presque une surprise de voir une hiérarchie aussi nette entre premier, deuxième et, j'ai envie de dire, le reste du monde.
Ouais, c'est même pas bien, finalement, pour notre sport, parce que je préfère voir des athlètes de chaque nation capables d'aller chercher des médailles plutôt que de se partager ça à deux nations. C'est un peu ce qui ressort aussi sur la saison. On avait dit avant les relais, en gros, il n'y a vraiment que 4 équipes qui se détachent. Autant chez les filles, on ne sait pas trop. Mais chez les gars, ouais, vraiment, avec la grosse domination France-Norvège, c'est un petit peu dommage pour notre sport. On peut aussi dire que même s'ils ont rapporté 14 médailles, il y aura aussi des athlètes au sein de cette équipe de Norvège qui sont passés complètement au travers. On pense du coup à un Legrid, par exemple, qui aussi pouvait prétendre à une médaille. Donc lui, ça va être un petit peu le grand perdant. Tous réussi à avoir des médailles sur la Mastart aujourd'hui avec 2 Norvégiennes. C'est pas bon. Après, on va compter que Ingrid Tendrevold devait être là, mais en tout cas, voilà, c'était que 2 représentantes. Donc ça se concentre sur Tarjei et Johannes, quoi.
Et l'Allemagne qui est c'est des jeux très très difficiles pour eux. Alors, ils ont un titre, mais ils finissent avec 2 médailles. Il y a 4 ans, ils en avaient eu 7. Et c'est vrai que quand on a connu l'Allemagne, qui avait une telle densité et chez les hommes et chez les femmes, Sandrine, quand tu étais sur le circuit, je pense que c'était encore le cas.
C'était un collectif incroyable. Et au milieu du troupeau allemand à chaque fois, c'était que des Allemands et des Russes.
Donc, on n'est pas si mal lotis, quoi, nous, les Français, hein, faut se dire.
Faut se dire qu'en fait, je pense que la France a construit une belle relève malgré tout. Il y a des beaux athlètes aussi en IBU Cup, donc avec des jeunes athlètes aussi, un mélange de jeunes et de plus anciens, et que l'Allemagne a du mal à se renouveler.
Ouais. Et puis, on a tellement entendu pendant des années que quand Martin Fourcade ne serait plus là, à quoi ressemblerait le biathlon français dans les grands rendez-vous ? Le résultat, c'est que c'est le meilleur bilan de l'histoire du biathlon français dans des Jeux Olympiques.
Ça, c'est rassurant. Et c'est prometteur aussi pour la suite. Merci, Sandrine, d'avoir participé à l'heure olympique. En tout cas, on était ravis de t'accueillir régulièrement parce que avec toute cette moisson de médailles, que ce soit Loïs, que ce soit Florence ou toi, vous êtes venus souvent nous apporter vos explications et c'était très appréciable.
Pour les bonnes interventions en face.
Merci, à bientôt. Le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le 3 et il concerne le tableau des médailles. Maxime.
Alors, ce n'est pas encore définitif, mais a priori, ça se terminera ainsi. C'est la Norvège qui, pour la troisième fois de suite, après Sochi et Pyeongchang, va terminer en tête du tableau des médailles. La Norvège, c'est 5 millions d'habitants, c'est 35 médailles, 15 en or, 14 médailles en biathlon, c'est très costaud. Et on ne peut en revanche pas résumer la Norvège au biathlon, puisque même si le pécule est énorme, la Norvège a décroché des médailles sur 9 sports différents, donc en gros sur quasiment 70% des sports présents aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc, c'est assez exceptionnel. Ils avaient déjà été en tête à Salt Lake et puis il y avait eu un petit creux autour de Turin. Et puis, on a un pays qui s'est remis, on va dire, en ordre de marche et qui, historiquement, est donc neuf fois en tête du tableau des médailles. Donc, très, très, très grand pays, le meilleur même des Jeux Olympiques d'hiver.
Surtout qu'en ski de fond, paradoxalement, ça n'a pas explosé tous les records, toutes les performances qui pouvaient être espérées. Klebe, notamment, fait des jeux fantastiques, mais on pouvait espérer un peu mieux. Et je pense que là-bas, le ski de fond n'a pas été vécu comme une réussite totalement pleine. Donc, ça montre que ce n'est pas en surperformant que la Norvège a réussi tout ça, et c'est d'autant plus fort.
Non, on a parlé tout à l'heure du bilan du biathlon, mais oui, ils ont eu des médailles dans 9 sports. Mais vraiment, le biathlon, je ne dirais pas leur sauve la mise. Hein. Mais effectivement, en ski de fond, ils n'ont pas eu tout à fait le bilan qu'ils espéraient. Et 14 médailles en biathlon, je crois que derrière, ça doit être le ski de fond qui en a rapporté le plus avec 7. Ouais. Donc, il y a vraiment quand même un poids gigantesque. Et même les médailles d'or, je regardais, 6 médailles d'or en biathlon. Ils en ont 4 et 9 sur tous les autres sports. Donc vraiment, leur bilan qui est historique en biathlon, on n'avait jamais vu une nation terminer avec 14 médailles et 6 titres, d'autant qu'il y a 4 ans, c'était un peu l'inverse, ils n'avaient fait que 7 médailles en biathlon. C'est vraiment ce qui les a portés cette année vers la première place du tableau des médailles. Et s'ils avaient fait des jeux, on va dire, normaux en biathlon, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux de terminer premier.
Et leur record, c'est 39 médailles, c'était il y a 4 ans.
Très bien pour ces chiffres du jour. Merci Maxime. On va passer, si vous voulez bien, à notre dernière partie. On va se pencher sur les images des Jeux. Lorsque l'on approche de la fin des Jeux Olympiques, nous remonte évidemment des images fortes. Nous avons choisi d'en garder une chacun dans l'heure olympique. Pour revenir sur ces moments, nous accueillons Maxime Dupuis, Laurent Vergne, Simon Farvac et Raphaël Brosse. Simon, on va commencer par ton image. Elle concerne le ski alpin français.
Oui, et plus précisément Clément Noël, lauréat du slalom, le troisième Français à être devenu champion olympique de slalom. D'une part parce qu'il y a la course, avec cette deuxième manche qui part pas si bien. Il perd 25 centièmes de son avance sur Daniel Yule, qui est en passe de faire une grande remontée. Et là, il enclenche. On ne sait pas trop ni comment ni pourquoi ça se débloque. Et il fait une fin de run exceptionnelle, il signe même le meilleur temps de cette deuxième manche. Donc il y a cet aspect sportif qui est magnifique, cette délivrance en bas où il serre le point alors qu'il y a encore du monde derrière, il y a encore 5 skieurs qui peuvent le priver d'une médaille. Mais on sent en tout cas que pour la médaille, ça sent très bon et il s'est rendu compte que son ski était excellent et ça a senti très bon non seulement pour la médaille mais même pour l'or. Et il y a tout ce qu'il y a eu avant parce que Clément Noël, il a beaucoup douté cette saison. Ça a commencé très fort à Val d'Isère avec une victoire. On pensait à un enchaînement avec un second succès à Madonna. Et sur la dernière porte, tout s'est écroulé. À partir de là, il a été comme plongé dans un questionnement permanent. Pour en avoir discuté avec lui à un mois des Jeux, il ne savait pas ce qui n'allait pas. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne pouvait plus exprimer le feu qu'il avait dans les skis. Alors, des fois, c'était assez terne et c'était une course moyenne. Parfois, il allait à 2000 à l'heure, mais il n'arrivait pas en bas. Et il a en quelque sorte prouvé, parce que beaucoup de champions revendiquent le fait d'avoir une confiance extrême en eux et de jamais douter. Lui, il a prouvé qu'on pouvait douter, se remettre en question à quelques jours d'un grand événement, à condition de trouver les réponses le jour J. Et c'est ce qu'il a fait avec brio.
Messieurs, c'est ça qui est incroyable dans l'histoire de Clément Noël, c'est finalement sa saison qui est faite de très haut, de très bas, et finalement qui revient sur quelque chose de fantastique.
Bah, c'est la magie des Jeux, c'est la magie du jour J, c'est-à-dire que voilà, début de saison formidable, on dit qu'il va tout écraser, et puis il y a ce moment où il perd pied, et on le retrouve le jour J, voilà, et il y a cette première manche qui est bonne, mais sans plus. Ce début, comme tu l'as dit, de seconde manche, où il n'est pas encore dans le rythme, mais c'est sur la deuxième partie qu'il commence à aller très vite. Moi, ce que je retiens, c'est aussi son émotion. Voilà. Je trouve que souvent, à l'arrivée d'une course de ski, ça manque un peu d'émotion. Bah là, il avait beau avoir ses lunettes de soleil, on sentait qu'il y avait des trémolos dans la voix et des sanglots qui allaient venir. Et c'est plutôt une belle image, voilà, de sa prise de conscience, de son entrée dans l'histoire, dans l'histoire du ski alpin français. Toi, tu l'as dit, ça n'est que le troisième en slalom, et c'est quand même quelque chose de très particulier, de formidable à l'échelle de son sport et à l'échelle de sa vie, tout simplement.
On va passer à la deuxième image des Jeux. Raph, toi, ça concerne le Big Air avec notre Française Tess Le Deux qui s'est fait shipper l'or, on pourrait le dire, par Eileen Gu.
Tout à fait. Moi, je me souviens vraiment de cette image forte qui a eu lieu au début de la première quinzaine, au début de ces Jeux. Bon, c'était la première du Big Air aux Jeux Olympiques et on a eu droit à un concours de très, très haut niveau. Alors, c'est le premier point. Ça a été techniquement assez fou à suivre impressionnant pour en tout cas le néophyte que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs. Et surtout, c'est le dénouement qu'on retient. On a une Tess Le Deux qui pense avoir fait le plus dur en claquant son saut qu'elle est a priori la seule à savoir faire, le fameux double cork 1620 degrés. Et finalement, non, puisque la Chinoise le sort aussi, elle, sur son dernier run. Elle réussit ce saut qu'elle n'avait jamais réussi auparavant en compétition. Et elle lui chippe la première place pour moins d'un point. Donc, il y a eu toute une dramaturgie autour de cette fin de concours. D'une certaine manière, ça m'a fait penser, et peut-être que mes camarades seront d'accord avec moi, au concours de saut à la perche des JO de Rio en 2016, avec un Français, en l'occurrence Ronald Villoni, qui sort un super concours, mais qui tombe sur un athlète qui, à domicile, réussit le saut de sa vie et qui l'emporte finalement de pas grand-chose. Alors, on ne va pas comparer Eileen Gu à Thiago Braz, en l'occurrence, mais voilà, moi, j'ai retenu ce moment-là. Évidemment, Tess Le Deux était déçue, on pouvait le comprendre, mais elle n'avait rien à se reprocher. Elle avait fait le boulot, mais en face, il y a une fille qui était un tout petit peu plus forte qu'elle.
Je ne sais même pas si elle était vraiment déçue. Enfin, sur le coup, sûrement, mais quand on l'a reçue dans le podcast L'Heure Olympique, elle avait vraiment absolument aucun regret parce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait ce jour-là. Mmh. Et même sur le fait de peut-être ne pas avoir caché avant, comme la Chinoise, son saut, parce qu'elle disait que c'était de toute façon... Même si elle ne l'avait pas fait deux semaines plus tôt au X Games, ça n'aurait rien changé. Parce qu'Eileen Gu, comme le disait Tess Le Deux, un saut comme ça, ça ne se prépare pas en 15 jours. Donc, elle travaillait dessus depuis très longtemps. Le risque qu'a pris Gu, c'est de le tenter pour la première fois en compétition aux Jeux Olympiques. C'est ça qui rendait le pari vraiment assez osé, même s'il a été payant. Mais en tout cas, Tess Le Deux n'avait pas l'air d'être plus déçu que ça et même assez contente d'avoir participé à un moment, je pense qu'elle a conscience d'avoir participé à un temps très fort de sa discipline dans l'histoire des Jeux.
C'est bien que ce soit terminé comme ça au final. C'est vrai, quand on l'a reçue, elle avait évacué finalement cette frustration qu'on a pu ressentir quand même avant même son dernier saut. On a senti quand même de la déception de son côté parce que l'or lui était quand même plus ou moins promis. Elle avait réussi à passer outre cette tristesse pour finalement ne retenir que le positif et se dire « j'ai quand même participé, comme tu dis Laurent, à quelque chose d'exceptionnel ».
Ouais, et je pense que pour prolonger la métaphore athlétique qu'a utilisée Raphaël, c'est même peut-être un peu l'équivalent d'une course où deux athlètes battraient le record du monde. Mais il y en a un qui termine deuxième et l'autre premier. Et je pense que si on fait une finale du 100 mètres, par exemple, et que vous avez deux sprinteurs qui battent le record du monde, oui, celui qui est deuxième est forcément frustré parce que c'est un compétiteur, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Donc voilà, c'est un petit peu comparable à ça, et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de Tess Le Deux après cette épreuve.
C'est un peu le 400 mètres haies de Tokyo.
C'est ça, oui.
Tout à fait.
Un peu ça, oui.
On va passer à la troisième image des Jeux. Là, c'est un moment un peu plus... j'allais dire un peu plus dramatique. Maxime, tu as choisi de nous parler du cas de Kamila Valieva, qui du début jusqu'à la fin a été un véritable calvaire.
Ça part comme dans un rêve pour elle, puisqu'elle gagne le titre par équipe avec ce premier quadruple saut, l'histoire des Jeux pour une femme. Elle a 15 ans, c'est sa première saison senior, elle écrase tout depuis son arrivée. Et puis, très vite, il y a des rumeurs. Ça fait un peu penser à l'affaire Ben Johnson en 88, c'est-à-dire que, bah, il se passe quelque chose. On se doute qu'il y a un problème avec des rumeurs de dopage. Et puis, très vite, on sait que c'est elle qui a été attrapée par la patrouille. Mais la particularité, c'est qu'elle a été attrapée par la patrouille avant les Jeux, mais que le contrôle a été révélé très tardivement après son entrée donc, et ce titre olympique par équipe. Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'est une gamine de 15 ans qui, c'est un moment très dur, son passage en programme libre, puisqu'elle a réussi son programme court. Mais le programme libre, elle se retrouve la dernière à passer. Le titre olympique lui tend les bras. Et là, on a l'impression que toute la pression, tout ce qui était accumulé depuis des jours et des jours, lui retombe sur les épaules. Et là, c'est 4 minutes très douloureuses à suivre, puisqu'on voit finalement une athlète qui finit par faire son âge, qui est peut-être coupable de s'être dopée, mais qui est surtout victime ce soir-là, c'est-à-dire que victime d'avoir essayé, on va dire, d'avoir été poussé à aller au bout, que le TAS l'ait poussé, autorisé à concourir, alors que la meilleure chose à faire aurait été sûrement d'arrêter. Et puis ces 4 minutes, ça commence par 2 chutes très rapides. Il y a 2 chutes, 2 glissades, enfin, c'est douloureux au possible parce qu'on sent qu'elle a perdu pied. On espère presque à un moment qu'elle va sortir de la glace parce que ce n'est pas possible d'aller plus loin. Et finalement, elle continue avec le final qu'on sait, elle termine 4e. Et surtout, ces images très dures de la cérémonie Kiss and Cry, vous savez, c'est l'endroit où elles attendent leurs notes avec leur coach, où il y a une froideur absolue de sa coach, Tuberidze, qui n'a pas vraiment envie de la réconforter, parce que ce qu'elle voit, c'est qu'elle a échoué finalement, et que finalement, cette fille-là, bah, on espère qu'elle ne sera pas détruite par cette expérience-là. Et s'il y a juste une pointe de positif là-dedans, c'est que la Fédération internationale est en train de penser à relever le palier, on va dire le niveau d'engagement des jeunes filles qui passeraient à 17 ans. Ça ne changera pas grand-chose pour son histoire et sa vie qu'il va falloir se relever. On espère qu'elle sera aidée. Mais en tout cas, c'est un moment très, très dur à vivre et qui dépasse finalement le cadre du sport. Je pense que si vous montrez cette image-là à n'importe qui, vous voyez, vous l'expliquez un peu le contexte, c'est très dur parce que moi, le patinage, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est juste humain ce qui se passe là et que c'est très compliqué à vivre.
Un petit peu quand même ta spécialité, ça l'est devenu.
Je n'aurais pas jusqu'à dire ça.
Mais tu disais, Maxime, on se retrouvait à espérer qu'elle arrête éventuellement, enfin qu'elle arrête le massacre entre guillemets, mais on se retrouvait aussi paradoxalement à espérer qu'elle soit 4e ou 5e ou autre parce que si elle est sur le podium, il y a une autre fille qui peut être 4e et ne pas savoir si elle aura une médaille olympique pendant des années. Donc, espérer qu'elle soit 4e, non, mais c'est pour dire que même pour nous, de l'extérieur, on savait plus ce qu'on voulait. Alors, j'imagine que de l'intérieur, ça a été encore plus douloureux et compliqué à vivre, quoi.
Ouais, mais honnêtement, à ce moment-là, pendant 4 minutes, j'oublie le sport. Je vois juste une personne en pleine détresse qui est en train de s'écrouler complètement. Et finalement, bon, on se doute très vite qu'elle n'aura pas la médaille de toute manière. Et que finalement, c'est justement ce qui est difficile, c'est ça, c'est victime ou coupable. Elle est victime d'avoir 15 ans et d'avoir pris un produit dont on ne sait pas exactement comment il a été ingéré, même si on entend parler du fait qu'elle aurait bu dans le verre du grand-père. Ce qui est, voilà, bon, l'entourage est sûrement pour beaucoup aussi là-dedans. Et de coupable, elle devient complètement victime parce qu'encore une fois, moi, je ne vois plus du sport à ce moment-là. Je vois une fille de 15 ans devant le monde entier. Je ne sais pas combien à faire. On sait que le patinage, ça fait des audiences de dingue en plus, qui est en train de s'écrouler complètement. Et c'est pour moi, avant tout, une histoire humaine triste et déplorable.
Une image très difficile et presque insoutenable hein, à tenir et à regarder. Laurent, on va parler d'un autre moment difficile. Alors on n'est pas sur une jeune fille, mais on est quand même sur la détresse également, avec les 3 sorties de Michaela Schifrin sur les épreuves de ski alpin. Toi, c'est quelque chose qui t'a marqué également.
Bah oui, parce que Michaela Schifrin aurait dû être une des grandes stars de ces Jeux Olympiques. Moi, c'est une sportive que j'aime énormément. Je trouve que c'est une skieuse fantastique. Je pense qu'elle a du génie. C'est une personnalité que j'aime beaucoup aussi. Donc, ça m'a un peu peiné de l'avoir traversé ces jeux comme ça, de manière aussi douloureuse. Et il y a des athlètes qui ont une seule épreuve. Donc, s'ils passent au travers, c'est qui tout double. Mais là, pour Schifrin, ce qui était terrible, c'est que chaque nouvelle chance a prolongé le calvaire et a renforcé le côté terrible de ces jeux pour elle. Et il y a un moment particulièrement, donc je crois que c'est après le slalom, il me semble, où là, elle a vraiment, elle a craqué et elle a eu cette phrase où elle, où on sait que son père est disparu tragiquement et de façon accidentelle il y a de cela 2 ans, qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Cette année, on avait l'impression qu'elle avait vraiment repris le dessus. Je ne sais pas si les difficultés qu'elle a eues à Pékin, dans quelle mesure ça peut être lié à ça, mais en tout cas, après le slalom, elle a eu cette phrase où elle a dit « Là, j'aurais vraiment besoin, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir appeler mon père, mais je ne peux pas puisqu'il n'est plus là. » Et bon, c'était un moment quand même assez... assez fort et qui, moi, m'a touché. Donc, c'est une très, très grande championne. Je suis sûr qu'elle se relèvera et que quand Michaela Schifrin prendra sa retraite, le plus tard possible, j'espère, bah, cet épisode chinois, pékinois, olympique, fera partie de sa légende. Ce ne sera pas la période la plus agréable à se remémorer, mais je pense qu'un champion, une championne se construit ou construit sa légende aussi à travers des moments très très difficiles, et ça, c'en était un pour Michaela Schifrin.
Messieurs, vous voulez réagir sur la détresse de Michaela, qui est, on rappelle, sortie des 3 épreuves dans lesquelles elle était engagée, slalom, géant et combiné, en plus après seulement quelques portes.
Sur l'aspect sportif, voilà, c'est pas seulement une déconfiture en termes de chrono, c'est qu'elle avait elle ne termine même pas les courses et elle enfourchait ou elle sortait assez rapidement. Donc il y avait une sorte de blocage. Le pire sur cet aspect-là, c'était le combiné où on avait vraiment l'impression que ça lui tendait les bras entre guillemets une médaille par rapport au niveau de ski auquel elle nous a habitués toutes ces années. Donc c'était assez particulier de la voir comme ça. Méconnaissable, entre guillemets. En plus, nos consultants à l'antenne disaient que les échos qu'ils avaient, les retours, c'est que ça allait de mieux en mieux aux entraînements, qu'il y avait des bonnes performances dans ce domaine-là. Donc, elle sentait la neige correctement, mais dès qu'elle était dans le portillon de départ pour une compétition, elle était méconnaissable. Donc, c'est vrai que c'était très particulier à suivre.
Ça rappelle encore une fois bêtement le poids de la tête et du mental. Voilà. C'est quelqu'un qui récite des gammes et d'un seul coup, qui n'y arrive plus pour une raison, comme un pianiste qui, à un moment, fait des fausses notes tout le temps, alors qu'elle sait le faire par cœur. Et ce qu'elle dit voilà, sur son père, c'est horrible, mais oui, c'est ça. Elle a besoin de cette épaule-là qu'elle n'a plus. Et ça c'est pas que ça la dérègle, mais ça ne l'aide pas à se retrouver. Donc, c'est vrai que c'était un moment plutôt, plutôt difficile.
Je pense pas que c'était un problème de pression concernant Schifrin, parce qu'on a pu lire ou entendre ça, qu'elle n'a pas tenu sous la pression. La pression, Schifrin, elle a l'habitude de la gérer et de très bien la gérer. En revanche, oui, c'est un problème d'ordre psychologique et mental, mais qui dépasse, à mon avis, le simple fait d'être sous pression parce qu'il y a une médaille d'or olympique à aller chercher.
Ça m'a fait penser aussi un peu à Simon Biles, avec toutes les limites qu'il peut y avoir dans de telles analogies.
Oui, c'est ça. Ça se rapproche plus de ça, même si effectivement, tu as raison, les deux cas de figure et les causes qui ont mené à ces conséquences sont très, très différentes. Mais voilà, Simon Biles, ce n'était pas non plus la pression du résultat. C'était autre chose.
Vous aussi qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous avez certainement en tête des images de ces Jeux Olympiques, peut-être même les mêmes que nos journalistes ici présents. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, sur Twitter également, en venant directement nous parler ce que vous pensez, ce que vous avez retenu de ces Jeux.
S'excuse avec Maxime d'avoir un peu plombé l'ambiance.
Ouais, merci monsieur, parce que là on était bien parti avec des belles images, des belles médailles d'or et d'argent, et puis derrière voilà, mais c'est ça les Jeux, c'est des belles images, des images fortes, des images en positif, en négatif, il faut tout. L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez le dernier épisode dimanche directement sur votre smartphone. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec, on l'espère, 2 nouvelles médailles, une dernière peut-être avec le Team Event. Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut. Salut.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.